Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnèrent pour porter la croix à un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Ils lui offraient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête.
Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix.
De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux,
il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons.
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient.
Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale de 2 heures portant sur la passion et la mort de Jésus selon l'évangile de Marc. Et nous venons d'entendre à l'instant même le récit de Jésus en croix. Francine Robert, quand on lit ce récit ou qu'on l'entend, ce sont des récits plutôt sobres.
Oui.
Au niveau des souffrances et la dimension torture, oui. Il n'y a pas de détails.
La crucifixion est un récit très sobre aussi dans les 4 évangiles. Ça pourrait être raconté autrement, avec une insistance sur les souffrances que ça fait subir, sur le sang qui coule.
On est loin du film de Mel Gibson, finalement.
Oui, c'était...
C'est pas l'objectif de Marc.
Son choix éditorial à Mel Gibson était celui-là. C'est clair que le choix éditorial de Marc, c'est autre chose. Nous le voyons moins parce que nous avons en tête des images de films. Nous avons aussi des images de crucifix, de tableaux. Donc, il y a une contemplation qui est construite à l'intérieur de notre propre imaginaire des souffrances de Jésus. Mais dans les récits de la Passion, il y a une sobriété qui devrait, je pense, nous inviter à la sobriété nous-mêmes. Donc, en fait, je le rappelle, ce que nous avons, ce sont des théologies mises en récit. C'est-à-dire, les évangélistes ne vont pas s'arrêter sur des détails, sinon les détails qui vont trouver porteurs de sens, porteurs de signification.
Par exemple, les 2 larrons.
Oui, par exemple, les deux larrons.
Chaque côté.
L'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
Et ça, ça fait drôlement écho à ce qu'on trouve au chapitre 10, justement. Les deux, c'est Jacques et Jean. Qui,
oui.
Est-ce que je pourrais être l'un à ta droite puis l'autre à ta gauche?
Dans ta gloire.
Oui, oui, vous avez raison.
Absolument.
Ben oui, c'est important,
c'est quelque
ça.
Chose. Ouais. Alors que Jésus vient d'annoncer pour la troisième fois sa passion.
Ça vient immédiatement après la troisième annonce de la passion.
Ouais. Oui, 10, verset 35 et suivant. Alors, on voit la résistance. Hein. C'est pas un problème d'intelligence. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Et que le Messie ne soit pas un instrument de la toute-puissance de Dieu, ça rentre pas. Alors, c'est le genre de détail que Marc présente. Les deux larrons à sa droite et à sa gauche. C'est une belle ironie narrative de Marc. D'autres manières de transmettre du sens, ça va être aussi par les paroles.
Vous parlez des moqueries, là.
Ça va être, par exemple, oui, les moqueries.
Par les passants,
oui.
Les chefs religieux.
Exact. Et les deux larrons. On n'a pas l'histoire du fameux bon larron, là, comme dans Luc. Donc, Jésus est vraiment isolé et les disciples ne sont pas là non plus comme dans Jean. Et les passants se moquent de lui en hochant la tête, dit Marc. Alors, on pourrait trouver que c'est bizarre de pourquoi décrire ce mouvement. Il disait en hochant la tête, « Ah, toi qui vas détruire le temple ». On le dit comme ça dans Marc pour reprendre le vocabulaire du psaume 22, qui est très utilisé. Dans les récits de Jésus en croix. On le retrouve aussi chez Matthieu, d'ailleurs, et en bonne partie chez Luc. C'est probablement moins Marc qui a fait ça que les récits antérieurs. Les récits de la Passion sont parmi les plus anciens à avoir été écrits. Marc hérite d'un récit déjà fait, qu'il va bien sûr modifier ou aménager à l'intérieur de son propre évangile.
Alors, ce que et vous oui, dites, c'est que le psaume 22... aurait servi, si on peut dire, de substrat, de base.
Je dirais plutôt fournir un langage, fournir un vocabulaire. C'est un des psaumes que l'on appelle du juste souffrant, donc quelqu'un qui se plaint à Dieu d'être mal pris alors qu'il ne considère pas que c'est la conséquence de sa mauvaise conduite. Il demande de l'aide de Dieu. Donc, un juste souffrant, ça s'applique bien à la situation de Jésus et ça a été certainement une des premières manières dont les premiers chrétiens ont apprivoisé ce qui était pour eux un scandale, c'est-à-dire la mort.
En fait, on pourrait dire un état de choc là,
oui.
Devant cet épouvantable scandale, finalement, parce que, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne dira jamais assez, que c'est l'image du Messie puissant, là, ça c'est complètement fini. Alors, ils ont fait une relecture à l'aide, si on peut dire, entre autres, de ce psaume 22,
qui
faisait partie de leur culture religieuse.
C'est
quoi.
Ça. Et une fois la relecture faite, pour aider les autres à la faire, on va raconter certains moments de cette étape de Jésus en croix. On va la raconter avec le vocabulaire de, par exemple, au psaume 22, verset 8-9, on va reconnaître « Tous ceux qui me voient me raillent, les ricanent et hochent la tête ».
OK. C'est le on mouvement. Voit là, que c'est les mêmes expressions.
Oui, que les passants hochent la tête. Verset 19 aussi du psaume 22.
Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits.
Là encore, c'est ce qui vient de se passer pour Jésus. Bon, c'est simplement pour indiquer donc qu'il y a dans cette utilisation du psaume l'effort de placer cette expérience d'échec de Jésus dans le cadre d'une expérience spirituelle qui est familière, qui est seule, donc des justes persécutés finalement. Et pour les premiers chrétiens, ça va exprimer leur découverte après coup que Dieu est vraiment présent dans cet échec de Jésus. Bon, les moqueries, les chefs religieux vont se moquer en disant que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Nous verrons et nous croirons. Le « nous verrons » est propre à Marc. Le voir dans ce récit-là joue un rôle assez important. Plus loin, le centurion va voir comment Jésus est mort. Il y a quelque chose à voir, peut-être pas avec les yeux, mais à voir autrement. Ce que les chefs religieux veulent voir, c'est de leurs yeux.
Leurs yeux humains, si on peut dire. Là.
Oui.
Ouais. physique.
Le regard intérieur, c'est aussi une capacité des êtres humains. Mais voir quelque chose qui est physique et dont on pourrait dire presque « j'en crois pas mes yeux », tu vois, tellement c'est frappant, ce serait un vrai Messie tout puissant, capable de descendre de la croix. Non, c'est ça que les chefs religieux disent. Et ils pourraient le dire avec une certaine ironie, oui, mais probablement qu'ils seraient disposés à s'ouvrir à quelque chose du genre démonstration de toute puissance de Dieu qui, à travers un Messie crucifié, manifeste tout à coup, qui peut bien faire ce qu'il veut quand il veut. Après tout, à lui, tout est possible. Donc, il y a cette image du Messie tout-puissant qui est mise en scène par les chefs religieux. Au fond, ce qu'il voudrait, je vais reprendre une sorte de jeu de mots que j'emprunte. Malheureusement, j'ai pas noté à quel commentateur génial j'ai emprunté ça, mais c'est comme s'il demandait de passer de la défiguration à la transfiguration. Ils ont devant eux une sorte de Messie défiguré, et s'il s'était transfiguré sous leurs yeux, comme d'ailleurs les disciples ont vécu une sorte de transfiguration glorifiante, et tout ce qu'ils voulaient, c'était rester sur cette bonne montagne de gloire, c'est surtout pas descendre au calvaire. Alors, c'est un peu ça. À travers ce Messie défiguré, on ne peut pas reconnaître Dieu. On le voudrait plutôt transfiguré. Je signale en passant que ce genre de commentaires, c'est toujours rendu possible grâce aux nombreux ouvrages qui s'écrivent. Ça sort pas de ma tête, tout ça, là. C'est des gens comme Camille Faucon, Paul Lamarche, Raymond Brown, les commentateurs que j'ai consultés. Donc, il faudra voir autrement. Voir, non pas avec les yeux physiques, mais avec l'intériorité dont nous sommes capables, peut-être lorsque nous sommes dépouillés, justement, des illusions. Peut-être on arrive à voir les choses autrement, comme chantait, comment il s'appelait? « Maintenant, je vois la vie avec les yeux du cœur ». Jerry Boulet. Jerry Boulet, qui avait vécu quelque chose de difficile aussi, et qui donc pouvait dire « Maintenant, je vois la vie autrement ». Vous voyez, c'est un peu ça. Ils demandent à voir, eux, quelque chose que Dieu peut pas montrer parce que c'est pas dans sa manière de faire. Mais le centurion va arriver à voir autrement.